Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Et aujourd'hui dans les enjeux internationaux, il est question de l'Éthiopie. Avec cette question, est-ce que l'économie de ce pays est vraiment émergente? Et on en parle avec Alain Gascon, le professeur émérite à Paris 8. Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Émilie et bonjour Alain Gascon.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous. Alors, c'est notre rôle, évidemment, dans le service public de parler de pays ou de thèmes qui sont clairement délaissés par la grande presse, qui, elle, est de plus en plus rivée à l'actualité immédiate. Alors, justement, l'Éthiopie, on en parle très peu. Pourtant, c'est la pièce maîtresse de la Corne de l'Afrique sur le plan géopolitique. C'est un pays qui est en contact avec quantité de conflits ou qui l'a été à la fois des conflits d'ampleur et des conflits violents. L'Érythrée, avec la sécession négociée de 1993, c'est une ancienne province, l'Érythrée éthiopienne. La Somalie, le Kenya, l'Ouganda qui n'est pas frontalier mais qui a été très agité, le Soudan du Sud qui traverse une sorte de guerre civile, et puis l'Éthiopie géographiquement, évidemment, c'est un môle, c'est deux fois la France, c'est environ 100 millions d'habitants, c'est une fécondité élevée, une économie, on l'a dit souvent, émergente ou pré-émergente, des richesses agricoles, une présence économique chinoise non négligeable, et puis on pourrait citer beaucoup d'atouts et de handicaps, d'ailleurs, d'égale valeur. Sur le plan politique, qui dirige l'Éthiopie ?
Alors actuellement, l'Éthiopie est dirigée par la même coalition, c'est-à-dire l'IPRDF, c'est-à-dire le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens. Depuis 1991, le fondateur Meles Zenawi est décédé en 2012 et la succession s'est faite sans anicroche, puisque c'est le vice-premier ministre, qui s'appelle Haïle Mariam de Sallagn, qui effectivement a pris la succession. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas du Nord, c'est quelqu'un qui n'est pas un chrétien éthiopien, c'est un protestant, et c'est quelqu'un qui vient du Wolaita, c'est-à-dire une région du Sud, qui est la dernière à avoir été conquise par les troupes de Ménélik en 1894. Donc c'est quelqu'un, il a un aspect, si vous voulez, de fonctionnaire éthiopien ordinaire, et disons c'est plutôt un administrateur, alors que Meles Zenawi avait eu une vie antérieure d'organisateur, de maquis, et c'était un redoutable négociateur. Haïle Mariam de Sallagn, tout le monde dit qu'il n'a pas de charisme. Mais enfin, il faut se méfier de ce genre de jugement, parce que longtemps on a dit que Meles n'avait pas de charisme non plus. Zenawi, et maintenant, on pense qu'il en avait.
Alors, on peut qualifier ce régime d'autoritaire?
Oui.
Personnalisé, non.
Pas vraiment, parce que c'est une coalition quand même, il faut quand même le répéter, parce que quand on voit les différents postes ministériels, les ministères clés sont quand même plutôt entre les mains des Tigréens, mais par exemple le ministère de l'Agriculture a été longtemps l'apanage des Oromo, le ministère des Finances c'était les Gouragé. Vous voyez, donc il y avait une espèce de panachage, même si effectivement, il faut bien le dire, c'est quand même, disons, une équipe difficile à pénétrer. Il faudrait avoir les documents directement dans la langue en amharique pour effectivement savoir ce qui se passe réellement.
Alors, si on dresse... C'est Alain Gascon, et je rappelle que vous êtes professeur émérite à Paris 8, institut français de géopolitique, également ancien chargé de cours à l'INALCO, les langues orientales. Est-ce que, au fond, on peut parler de l'économie? Parce que quand on regarde l'Éthiopie, si on trace ces deux colonnes avec les atouts d'un côté et puis les handicaps de l'autre, on verrait qu'il y a de grands atouts et de grands handicaps, et que c'est pas très facile d'avoir une vision de l'extérieur, sans être spécialiste, une vision globale des potentialités du pays.
Ça pourrait être d'abord la population. La croissance de la population est importante, le rythme est important, il y aura sans doute en 2050 au moins 160 millions d'Éthiopiens, c'est-à-dire 30 millions de plus que de Russes, et la population est une population jeune, 40% de moins de 15 ans, une population qui est répartie sur un tiers du territoire, 4/5 de la population sur un tiers du territoire, dire que la densité moyenne sur les hautes terres est de l'ordre de 200, plus de 200 habitants au kilomètre carré. Donc, et aussi des villes qui grandissent très rapidement.
Pour donner une idée, je crois que la France est 100 habitants au kilomètre carré.
Oui, mais alors c'est 200 habitants au kilomètre carré sur des hauts plateaux et des montagnes, hein. Et donc, dans certaines régions, par exemple, dans le sud, le Wolaita, dont j'ai parlé, on a des densités autour de 600 habitants par kilomètre carré. 400-500 habitants par kilomètre carré, c'est fréquent. Et donc, il y a un gros problème du côté de la taille des exploitations. D'après les statistiques éthiopiennes, les exploitations sont autour de 0,8 hectares, la taille moyenne. Elles étaient deux fois plus importantes, autour de 1,4 dans les années 80, voyez.
Les richesses, c'est l'agriculture d'abord.
C'est l'agriculture. Et c'est le fait qu'on a des hautes terres salubres, il n'y a pas de problème de malaria, pas de problème de trypanosomiase, et donc il y a une agriculture ancienne, une tradition agricole qui n'est pas si mauvaise que ça, hein. Parce que, bon, en gros, la FAO dit que il y a autour de 10 millions d'habitants, 11 millions d'Éthiopiens qui ont besoin d'aide alimentaire. On est en période de crise depuis 2 ans.
Sécheresse.
Sécheresse, oui, le phénomène El Niño. Et finalement, la proportion est restée la même. C'est-à-dire que lorsque l'Éthiopie était peuplée dans les années 80 de 42 millions d'habitants avec l'Érythrée, il y avait aux alentours de 4 à 5 millions d'Éthiopiens qui avaient besoin d'aide alimentaire. Donc, il y en avait 35 qui mangeaient, disons, à peu près à leur faim. Et là, il y en a 80 qui mangent à peu près à leur faim. Donc, ça veut dire que le paysan éthiopien, en dépit de tout ce qu'il a subi, du régime de Mengistu, aussi d'un régime qui n'est pas très, qui est très autoritaire, comme vous l'avez dit, finalement, les paysans éthiopiens ont fait de gros, gros efforts pour augmenter leur productivité. Ils ont introduit des cultures de rente et ils font de très gros efforts. Et hélas, le gouvernement a lancé en 2009 un programme de grandes concessions offertes dans le sud et l'ouest du pays, de grandes concessions offertes d'abord à des Éthiopiens et puis ensuite à des grandes sociétés multinationales, souvent asiatiques. Alors là, on a des lopins de terre de l'ordre du millier d'hectares, de la dizaine de milliers d'hectares. Et naturellement, cet accaparement de terre, ce land grab, comme on dit, se fait aux dépens des populations paysannes et des populations d'éleveurs dans ces régions. Et naturellement, les paysans, les éleveurs ne se laissent pas dépouiller de leurs terres facilement.
Alain Gascon, d'une façon globale, j'ai vu un chiffre intéressant. La croissance qui est tendance, si j'ai eu les courbes, mais elle serait en moyenne de 10% de 2000 à 2015. Donc c'est normalement bon.
Oui, oui, mais bon, même si effectivement on parle actuellement de 4,5% ou de 6%, hein, bon, sans doute la croissance à deux chiffres a été un petit peu gonflée. Hein. Bon, ça fait partie, si vous voulez, des arsenaux des gouvernements. Hein. Néanmoins, elle est supérieure à la croissance démographique. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est la fameuse crise des ciseaux dont on parlait dans les années 20 en Union soviétique. Hein. Là, effectivement, jusqu'à présent, la croissance économique est égale et même supérieure à la croissance démographique du pays. Ce qui fait que, bon, il y a quand même, malgré tout, des améliorations, ne serait-ce que le réseau routier, le réseau de chemin de fer qui a été entièrement transformé, la construction...
Fameuse ligne d'Addis Abeba à Djibouti, qui avait été arrêtée pendant très longtemps, elle marche, elle...
C'est
le seul port d'exportation.
Là, c'est une ligne à voie normale, construite par un consortium chinois, indien et turc, hein, et c'est une voie qui va être électrifiée, et donc on aura un chemin de fer tout à fait moderne qui remplace le vieux chemin de fer construit entre 1897 et 1917 par les Français.
Alors il y a quand même, Alain Gascon, pour terminer, des ombres au tableau.
Oh,
j'avais
oui.
noté, mais c'est vous, je parle sous votre contrôle, quand même un certain nombre de personnes sous le seuil de pauvreté, comme on dit.
Oui.
Un IDH, indice de développement humain, qui n'est pas bon du tout.
Tout à fait.
Et quid, j'ai vu, quid, si la question est importante pour vous, de l'alphabétisation ou de l'analphabétisme.
Alors, il y a eu de gros progrès de ce côté-là. Dans quelque endroit que vous alliez en Éthiopie, les plus reculés, on a construit des écoles. Il y a maintenant 30 universités dans le pays. En une vingtaine d'années, même pas, le pays s'est doté de 30 universités. Mais naturellement, il y a un énorme problème pour l'emploi des jeunes. Dans maintes régions, il n'y a pratiquement plus de place. Donc, ce que font les jeunes, ils vont en ville et très souvent, ils vont à l'étranger. Et en octobre 2012, il y avait 3 avions pleins d'Ethiopian Airlines qui transportaient de jeunes femmes éthiopiennes vers les pays du Golfe où elles se font employer comme petites bonnes. Où, elles, hélas, elles se font aussi violer, enfin tout ce que vous pouvez imaginer.
Maltraiter. En tout cas, merci de cet éclairage. J'aurais beaucoup de choses à dire, Alain Gascon. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à Paris 8, donc à l'Institut français de géopolitique, également ancien chargé de cours à l'INALCO. Et pour vous écouter, pour vous télécharger, franceculture.fr.